Bien, bonjour à tous et merci d'être ici à Radio Courtoisie pour notre émission Lumière d'Espérance. Nous sommes avec le père Michel Viau. Bonjour père.
Bonjour, bonjour chers auditeurs.
Et notre invité aujourd'hui, Jean-François Chemin, qui va nous parler de son livre Notre ami la gauche, deux siècles de cléricature. Bonjour Jean-François Chemin.
Vous êtes en ligne, Jean-François Chemin.
Vous nous entendez?
Oui, tout à fait. Est-ce qu'on
vous
m'entend
nous
bien
entendez.
Ça. Parfait.
Et il a écrit un livre, Notre ami la gauche. C'est pour ça que nous avons pris comme titre La gauche comme nouvelle religion. Mais auparavant, je requiers à votre attention pour quelques minutes, parce que je voudrais dire quelques mots sur Paul de Heuvels. Paul de Heuvels, membre de l'Institut, nous a quittés le 30 janvier dernier à l'âge de 77 ans. Il laissera le souvenir d'un universitaire de premier plan dont le parcours académique fut marqué par une exigence intellectuelle constante, une intégrité professionnelle et morale incontestable et une contribution internationalement reconnue au monde scientifique. Pour plus de détails, mais ça serait trop long, mais regardez Wikipédia, regardez Lewis, vous verrez tous les titres qu'il a. C'est énorme, c'est quelqu'un de reconnu, oui, de reconnu. Son itinéraire témoigne d'un attachement profond à la liberté de la recherche. J'insiste sur ce mot « liberté de la recherche ». Et à l'indépendance de l'esprit critique. L'indépendance de l'esprit critique, j'insiste aussi, parce que par ces temps qui courent, il est bien menacé. Il s'est également engagé publiquement dans des discussions suscitées par le rapport Sauvé. C'est comme ça que j'ai connu. Dans un climat trop souvent marqué par l'émotion et les effets d'annonce, il s'est efforcé de rappeler les exigences propres au travail scientifique, prudence méthodologique, clarté des sources et distinctions nécessaires entre rigueur scientifique et conception exigeante du débat académique. Et cela sans emballement médiatique. Cette prise de position menée avec fermeté mais sans esprit polémique traduisait sa conception exigeante du débat. Certains médias sont malheureusement restés au registre de l'émotionnel et M. Sauvé est demeuré sourd à sa contre-expertise statistique. En effet, Paul de Heuvels m'a fait le grand honneur à Yoann Picard, mon co-auteur, et à moi-même, de faire la préface du livre sur le rapport Sauvé, une manipulation, point d'interrogation. Nous avons voulu laisser ça au libre jugement de l'auteur. Nous ne critiquions pas le fait qu'il y ait eu des abus dans l'Église, c'était bien évident. Mais nous critiquions la méthode des statistiques employées par M. Sauvé, et c'est en particulier donc M. de Heuvels, qui lui est un statisticien scientifique mondialement reconnu, qui a critiqué ces méthodes. Rien n'y a fait. Les auteurs du livre ont été traités de anti-François, d'anti-pape. Alors évidemment, pour les laïcs, c'était moins grave que pour un prêtre comme moi. M. Sauvé l'a dit en direct à la télévision. J'ai écrit à la chaîne de télévision d'État, mais évidemment, on ne m'a pas répondu. Et puis, dans les médias catholiques, on n'a jamais parlé du livre, silence. Nous avons eu toute cette bonne presse bien pensante contre nous. Encore une fois, je le répète, nous ne critiquions pas le fait qu'il y ait des abus. Nous critiquions les méthodes d'investigation de M. Sauvé. Mais M. Sauvé veut être cru comme la loi et les prophètes. C'est un nouveau Moïse, c'est un Sauvé des eaux, n'est-ce pas? Comme veut nous le dire la Bible. Mais nous avons quand même une grande satisfaction, c'est que Rome, en revanche, a su prendre au sérieux son regard critique sur le rapport Sauvé. J'ai en effet en ma possession Une lettre dont je n'ai jamais fait état en public, mais j'ai le droit de le faire maintenant puisque un cardinal m'en a donné l'autorisation. Laquelle le secrétariat particulier du pape, autrement dit, le pape lui-même, François, puisque nous avions traduit un certain nombre, pour être bien compris, de passages, et notamment la préface de Paul de Heuvels en espagnol, pour que le pape lise la lire, puisse la lire, m'a félicité, et ça vient de son secrétariat direct, parce qu'il y a plusieurs secrétariats, et je sais lire les chiffres et les notes en chiffres romains qui indiquent que c'est vraiment le secrétariat du pape qui a félicité pour ce travail de vérité. Mais ça n'a pas été entendu en France. C'est pour ça que je regrette, et je le regrette aussi en son nom, comme je regrette qu'il ait cessé ses émissions à radio Courtoisie. Je le dis franchement, je le regrette parce que d'autres aussi le regrettent. Rendre hommage à Paul de Heuvels, c'est rappeler la figure d'un savant pour qui la recherche de l'engagement et l'engagement ne s'opposaient pas, mais se répondaient dans une même fidélité à la vérité. La grande tradition de l'université française. Le parcours de ce fidèle catholique demeure celui d'un universitaire exigeant, soucieux de transmettre autant une méthode qu'un esprit. Voilà, j'ai dit.
Bien, merci Père Viau pour cet hommage rendu à Paul de Heuvels. On va donc commencer ensemble pour discuter du livre Notre ami la gauche. Je voulais commencer, Jean-François Chemin, par une question. Pourquoi ce livre ?
Écoutez, pour deux raisons. La première, c'est que les élections législatives, les dernières élections législatives m'ont beaucoup donné à réfléchir. Et je me suis effectivement posé cette question. Comment se fait-il que des gens qui étaient extrêmement minoritaires en voix pouvaient revendiquer avec autant d'aplomb non seulement la victoire, mais en même temps la direction du gouvernement. Ça, c'est, on va dire, c'est une question de court terme, mais je dirais que depuis très longtemps, hein, j'ai aujourd'hui une soixantaine d'années, et je pense que ça fait bien une cinquantaine d'années que je me pose la question, effectivement, confronté à toujours cet aplomb, et en même temps cette position de surplomb, d'un certain nombre de personnes, je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de ces gens? Et je dirais que finalement ce livre est un livre de circonstances, mais en même temps c'est un livre que j'ai mûri pendant des dizaines d'années.
Je m'en doute. Alors, cher ami, vous avez en plus une illustration de la première page. Je serais curieux de savoir, j'ai cherché quelle date remontait ce tableau? On nous dit 1791, mais ça me paraît impossible.
C'est impossible.
C'est impossible. Oui.
je dirais sans aucun doute 1794, puisque c'est une gravure qui caricature Robespierre en train de guillotiner le bourreau après avoir guillotiné à peu près toutes les catégories possibles de la population française. Donc c'est une caricature qui est destinée à le faire tomber. Et moi, je à l'époque de la Grande Terreur, donc moi je la daterais sans preuve, mais effectivement du début de l'été 1794, peut-être juin, peut-être début juillet.
Oui, parce qu'il y a la fameuse chanson de Thermidor que vous connaissez, d'un tyran cruel, nous sommes délivrés. Enfin, il y a toute une campagne. Ce qu'il faut dire tout de même, et ça va apporter de l'eau à notre moulin, je voudrais simplement dire deux choses en introduction, qui vont dans votre sens. L'expression Robespierre, ce prêtre, il ne sera jamais que cela. Alors on s'est beaucoup battu pour savoir qui avait dit ça. Généralement, on l'attribue à Condorcet. Vous l'attribuez à Condorcet. Moi, je l'ai cru aussi, jusqu'au jour où, quand j'ai écrit l'heure du royaume de France est-elle venue, et j'ai eu à traiter de Robespierre. Et dans les aveux qui ont été obtenus de quelqu'un qui était finalement guillotiné, c'était à la fin de la Terreur, Robespierre était déjà mort. Il a espéré sauver sa vie en disant plein de choses, et entre autres, ce serait le pasteur Rabaud Saint-Étienne qui aurait dit cela, aussi une victime de Robespierre. Hein. qui aurait dit cela, le Robespierre. Pourquoi? Parce que il est toujours entouré de femmes, entouré de jolies femmes qui venaient l'écouter. Ces discours, j'allais dire le prêche, oui, parce que ces discours ont à la fois tiennent du sermon, du prêche, du plaidoyer et du réquisitoire. Ils sont extrêmement bien construits, c'est d'une logique froide et imperturbable. Bon, ça c'est un premier point. Bon, Robespierre, ce prêtre, effectivement, on a l'impression, et puis alors, il va donner un culte révolutionnaire qui est le seul religieux, puisque il y a un Dieu, l'être suprême, et qu'il y a une vie après la mort, l'immortalité de l'âme. Bon, ça sera un demi-échec ou un demi-succès, bon. Mais cela est, bon, ça va avec votre affaire. Et puis alors aussi, autre chose, Robespierre, ce prêtre, et la gauche comme religion nouvelle, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que si Robespierre est arrivé à Thermidor, n'est-ce pas, et quand il y était abattu, il était abattu non pas par des royalistes ou par des opposants notoires à son... Non, par des gens du même groupe. Hein. C'était aussi une sorte de gauche. Vous savez, la concurrence qu'il y avait entre le comité de salut public et le comité de sûreté générale, qui était présidé par Vadier, et que Vadier était un adversaire farouche de Robespierre. Ça a commencé début mai 1994 avec l'exécution de Madame Élisabeth de France parce qu'on accusait Robespierre de vouloir devenir dictateur en épousant Madame Élisabeth. Donc on l'a décrété d'accusation pensant que Robespierre interviendrait en sa faveur, mais Robespierre n'est pas intervenu. Il avait la vérité à défendre, n'est-ce pas? Il a sacrifié Madame Élisabeth, mais on le sait, ça s'est fait malgré lui, parce que il allait acheter un livre le soir même de l'exécution, et le libraire, qui était en bon terme avec Robespierre, bon, bah, lui a dit, pourquoi t'as fait ça? Et c'est là qu'il lui a tout raconté. Bon. Et puis alors, de ce mois de mai jusqu'à Thermidor, eh bien, vous avez la fête de l'être suprême, demi-échec, demi-succès, début juin, et puis ensuite Robespierre en tombe malade, et puis il y a toutes sortes de complots contre lui, organisés par Vadier, et on voit qu'auparavant, eux-mêmes avaient envoyé à la guillotine les Girondins. Donc, cette groupe, oui, c'est un groupe clérical finalement, puisque, en fait, on a le sentiment que ceux qui pensent mal dans leur secte de gauche, parce que les Girondins étaient aussi des Jacobins, faut pas l'oublier, eh ben, ce sont des hérétiques. Alors, les hérétiques, on les brûle. Voilà. Et là, c'était la guillotine. Les bûchers n'étaient pas à la mode, c'est la guillotine. Et eh ben, tout ça s'envoyait à la guillotine, et puis ça a continué encore, jusqu'au début du directoire. Voilà. Voilà les deux choses que j'ai à mettre dans les mains. Est-ce que vous pensez aussi, parce que, bon, Robespierre est quand même un cas particulier, contrairement à beaucoup d'autres, il ne s'est pas enrichi. Sur le plan moral, on peut rien en dire, hein, sinon que c'est marqué par le fanatisme, évidemment quasi-religieux, un peu comme Torquemada, qui pensait que, bah, en brûlant le corps, on pouvait sauver l'âme. Tant pis, il pleurait en voyant mourir ces gens qui souffraient, mais au moins ils sauvaient leur âme, peu importe le nombre de morts.
Oui, tout à fait. Donc effectivement, qu'on prête ce texte à Condorcet ou à Rabault-Saint-Étienne, en tout cas reste le fond du texte qui présente bel et bien Robespierre comme quelqu'un qui se prend pour un prêtre et qui ne serait jamais que ça, mais je crois effectivement que d'une manière générale, même s'il est une sorte d'archétype, la Révolution française a très largement été faite par soit des religieux, soit des clercs au sens plus large, c'est-à-dire en tout cas des gens, des avocats, des juges, des journalistes, etc., des gens qui étaient une sorte de prolongement, hein, du clergé d'Ancien Régime. Le sens de clerc s'étant élargi, on va dire, à la fin du Moyen-Âge pour désigner désormais tout un tas de métiers, de professions, de corporations intellectuelles ayant prise avec le pouvoir. La Révolution a été non pas, comme on nous le prétend, le fait du tiers-État, mais le fait du clergé, et plus largement d'une sorte de clergé que dans mon livre, je surnomme la cléricature, pour qu'on ne confonde pas totalement ces gens avec le clergé. Et encore une fois, le rôle des prêtres dans la Révolution a été tout à fait essentiel.
Oui, absolument, absolument.
Alors, on peut en donner de nombreux exemples,
oui,
mais celui qui me semble le plus parlant, c'est Sieyès. Le premier texte qu'on cite dans les manuels scolaires pour expliquer les origines de la Révolution, c'est ce texte de Sieyès, « Qu'est-ce que le tiers-État, tout, qu'a-t-il été jusqu'alors dans l'ordre politique, rien, à quoi aspire-t-il à devenir quelque chose ?» Ben, Sieyès n'est absolument pas un membre du tiers-État, c'est l'abbé Sieyès, hein, et la Révolution...
Oui.
Commence avec lui.
Et qui a exercé la cléricature, parce qu'il y avait des gens qu'on appelait abbé et qui n'avaient reçu que la tonsure, lui a été prêtre, n'est-ce pas? Il a vraiment
été. Il était
été...
vicaire épiscopal, je crois, de Chartres, si j'ai bonne mémoire.
Oui.
Voilà.
Il était
vicaire... Mais il y en a bien d'autres. Il y a ceux que Balzac appelle le Brelan de prêtre. Hein, donc le Brelan de prêtre, eh bien, c'est non seulement Sieyès, mais c'est aussi Talleyrand, Monseigneur de Talleyrand, évêque d'Autun. C'est lui qui a fait le discours réclamer la confiscation, la nationalisation des biens du clergé, ce qui était d'ailleurs une vieille idée des jansénistes, dont on aura peut-être l'occasion de reparler. Et puis le troisième larron, c'est Fouché, hein, Fouché qui était un oratorien, et donc on connaît la carrière, ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est une petite digression, mais que Fouché a fini duc d'Otrante, et qu'aujourd'hui ses descendants font partie des grandes familles princières du royaume de Suède. Alors, c'est quand même assez amusant. Bon,
eh oui.
Curieux destin.
Eh oui, effectivement. Vous avez parlé de l'abbé Sieyès, et effectivement, on parle de cet écrit. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'avant cet écrit, il y a une déclaration de Sieyès qui date de septembre 1789, quand les États généraux étaient devenus, par une sorte de coup d'État, il faut bien le dire, Assemblée nationale constituante, quand Sieyès définit le rôle du député. Il dit que quand on est élu député, ça c'est grave parce que ça nous remet en pleine actualité, hein, quand on est élu député, on ne représente plus seulement ou pratiquement pas ceux qui vous ont élu, mais le peuple de France. Et ça me fait penser à M. Mélenchon, qui dit « ne me touchez pas, ma personne est sacrée ». Voilà, sacralisation du législateur, c'est du Rousseau, Durcy. Vous parlez aussi de jansénisme. Ces membres de la Constituante, il y avait notamment le dénommé Camus, qui a dit, n'est-ce pas, nous réunis en Assemblée nationale, nous avons le pouvoir de changer la religion, mais nous ne le ferons pas. Or, on sait très bien qu'il était membre du Parlement avant, de l'ancien Parlement, ces juges qui représentaient, soi-disant, qui voulaient représenter le peuple, alors que c'était des gens qui achetaient leur charge au roi, bon, et qui pratiquaient un jansénisme parlementaire, mais uniquement pour embêter le roi et le pape, et qui le teintaient de gallicanisme, sauf que c'était plus le gallicanisme royal, mais le gallicanisme parlementaire. Tout ça pour faire une église schismatique avec la constitution du clergé. Mais ils avaient gardé du jansénisme, voilà, l'austérité, le culte de la vertu, et à mon avis, c'est ce qui amènera à la terreur. Je pense qu'il y a...
Absolument. La vertu sans la terreur est impuissante, disait Robespierre.
Absolument. Et en plus, ce sont des gens qui, comme ils ne croient plus en Dieu et en Jésus-Christ, c'est du jansénisme sans la miséricorde chrétienne.
Absolument. Mais alors, je vais rebondir, mon père, sur deux choses que vous avez dites, effectivement. Tout d'abord, sur la position de Sieyès, qui est que le député ne doit pas représenter ses électeurs, mais qu'il représente la nation. Et effectivement, alors, l'idée de gauche, hein, l'idée de droite gauche, elle est apparue, grosso modo, elle est apparue en septembre 1789, dans le cadre des débats au sein de l'Assemblée constituante. En gros, les gens qu'on va qualifier de gauche, parce qu'ils se sont rangés spontanément à gauche du président de l'Assemblée, et ils étaient partisans, le sujet du débat, c'était le veto royal, et puis alors les autres sont restés à droite, et d'ailleurs, on lit ça dans les souvenirs de Rivarol, les gens de droite étaient bien contents que les gens de gauche se soient un peu éloignés, parce qu'il paraît qu'ils faisaient beaucoup trop de bruit, et qu'ils étaient particulièrement agités. Et donc, c'est à cette période qu'il y a eu un débat au sein de l'Assemblée constituante, pour essayer de déterminer quel devait être le rôle de député. Est-ce que les députés avaient des comptes à rendre à leurs électeurs ou bien est-ce qu'ils n'en avaient pas? Et Sieyès a tranché dans ce sens qui est encore aujourd'hui d'actualité. Hein, et Sieyès, donc, et la gauche a tranché véritablement dans cette idée que le député n'a aucun compte à rendre à ses électeurs, sauf évidemment le jour de l'élection, mais entre deux élections, il fait absolument ce qu'il veut, parce que le peuple, je dirais, est trop bête, pas assez instruit pour savoir ce qui est bon pour lui. Benjamin Constant dira, un peu plus tard, début du XIXe siècle, « le peuple a la main trop lourde ». Donc il y a véritablement cette idée à gauche, selon laquelle la cléricature, pour faire simple, n'a aucun compte à rendre au peuple. Elle a mission de parler en son nom, elle sait ce qui est bon pour lui, mais elle ne lui doit aucun compte. Et on voit très clairement, vous parliez de Mélenchon, etc. Moi, je suis tout à fait amusé quand je vois la profession de tous ces candidats d'extrême-gauche. Hein, ils sont tous enseignants, bon, ou éventuellement journalistes, ou des gens de la culture, ou étudiants au long cours. Mais enfin, on voit pas beaucoup d'ouvriers, on voit pas beaucoup de paysans, on voit pas beaucoup de gens qui sont engagés dans des petits métiers populaires. Hein, ce sont de petits intellectuels. Voilà, donc ça, c'est la gauche. Vous parliez également tout à l'heure de ces parlementaires jansénistes. Hein, effectivement, alors les parlements qui avaient été créés, je crois, par Louis IX, peut-être que bon, en tout cas c'était à cette époque-là, ont pris de plus en plus d'importance au cours des siècles pour devenir effectivement une chambre d'enregistrement, de validation de la législation royale. Et comme vous l'avez très justement dit, ils ont fini par être infestés par les jansénistes. Alors c'est une noblesse de robe, mais c'est une noblesse de robe qui cherche à affirmer sa position en bloquant autant que faire se peut la législation royale, tout en se prétendant, là encore, les représentants de la nation. Hein. Ils se prennent pour la Chambre des communes britannique, mais qui est une chambre populaire, bourgeoise en tout cas, et élue. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas élus, et appartiennent à la noblesse de robe. Donc là aussi, il y a encore une imposture qui est à l'origine de la gauche, de gens qui sont titulaires de métiers cléricaux, là encore, hein, puisque bon, cette noblesse de robe porte la robe, c'est quand même une héritière de la soutane. Hein. On retrouve des aujourd'hui, dans les métiers de robe, les universitaires, même s'ils ne la portent plus vraiment, les avocats, les juges, etc. Et c'est tous ces gens qui, à la fin de l'Ancien Régime, sont venus nous expliquer qu'ils représentaient la nation et qu'il fallait qu'ils prennent le pouvoir au nom contre le roi au nom de la nation. Donc là encore, il y a une imposture.
Et c'est ce que vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage, que, en somme, la gauche refuse la démocratie directe, d'ailleurs c'est le discours de Sieyès, de façon à conserver le pouvoir et à dicter, je dirais, la voix au peuple qu'il méprise.
C'est-à-dire qu'effectivement, structurellement, statutairement, je dirais même ordinalement, puisqu'on parlait d'un ordre d'Ancien Régime, la gauche est l'héritière du clergé d'Ancien Régime, et elle se positionne donc dans une posture de surplomb intellectuel et moral, dans un véritable magistère, hein, qui découle du magistère qui était celui du clergé. Et on peut d'ailleurs constater, ce qui est très intéressant, c'est que la gauche est majoritaire, sinon ultra-majoritaire, dans un certain nombre de métiers intellectuels qui tous ont un statut, hein, et qui sont payés peu ou prou avec nos impôts. Alors on va bien sûr les retrouver dans l'enseignement, avec un haut clergé, l'université, un bas clergé, l'éducation nationale. On va les retrouver dans la presse, qui là aussi a son haut clergé et son bas clergé. On va les retrouver dans le monde de la culture. On va les retrouver, bien sûr, dans le monde politique. On va les retrouver chez les juges. Tout ça sont des gens qui soit sont des fonctionnaires, soit sont des gens qui vivent de subventions. Et ces gens, donc, ont statutairement, et avec un statut privilégié, donc, une position de surplomb intellectuel et moral qui leur donne pour mission, ils la prennent très au sérieux, d'éduquer le peuple, de le rééduquer ou de le punir. Et même à certaines époques, on l'a vu d'ailleurs à l'époque de la Révolution, de l'éliminer. Hein, les gens qui effectivement ne sont ni éducables ni rééducables, même au terme d'une punition, eh bien il faut les éliminer. Voilà. Donc il y a véritablement dans la nature de la gauche un très grand mépris pour ce qu'est réellement le peuple. On ne considère le peuple qu'en tant qu'il est capable d'aller là où on a envie qu'il aille, mais ces sentiments profonds, on s'en fiche complètement, voire même on les combat.
Oui, d'ailleurs, il y aurait quand même une prise de conscience de cela. J'en reviens à Robespierre parce que c'est quand même un personnage. Il avait instauré la loi des maximums, voilà, blocage des prix, blocage des salaires. Et donc, on avait réussi à bloquer les salaires, mais pas les prix. Et c'est pour ça que la Commune de Paris, qui est encore plus à gauche que Robespierre, n'a pas bougé le petit doigt et que il paraît que c'était mon maître Bruat, que vous avez connaissé, Bruat, qui était professeur à la Sorbonne, qui restait membre du Parti communiste d'ailleurs jusqu'au bout, mais qui, dans la grande tradition universitaire française, tout de même, nous donnait un enseignement assez complet, mais quelquefois, évidemment, il y avait des orientations, vous voyez. Mais il paraît que les ouvriers criaient foutu maximum quand ils ont vu passer la charrette de Robespierre, et que personne n'a levé le petit doigt pour de la Commune de Paris, qui était pourtant, encore une fois, je le répète, plus à gauche, pour venir au secours de cette révolution bourgeoise qui s'écroulait déjà en Robespierre, mais qui allait continuer autrement.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, le peuple, à de nombreux moments de l'histoire de France, s'est trouvé en décalage vis-à-vis de la gauche. J'en prends pour exemple la chute de Napoléon III, qui avait été donc un siècle après les événements que vous décrivez, mais qui quand même avait été plébiscité en mai 1870 pour un énième plébiscite avec 90% des voix. Donc le peuple était massivement derrière Napoléon III. On a profité, la gauche a profité du fait qu'il soit prisonnier des Allemands après la défaite de Sedan pour faire un petit coup d'État républicain en catimini. Mais les premières élections législatives ont donné deux tiers de députés monarchistes à l'Assemblée. Donc clairement, le peuple à ce moment-là n'était pas républicain. Et d'ailleurs, Jean Massé avait décrété, il aurait fallu 30 ans d'éducation avant d'instaurer le suffrage universel. Donc la gauche considère que le peuple n'est pas assez éduqué pour être de gauche, et qu'il faudra pleinement, il fallait pleinement lui donner le droit de vote, après quand même lui avoir expliqué pendant 30 ans qu'il fallait voter à gauche. Hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que, ayant réussi à revenir au pouvoir au bout de 6 ans de législature de monarchiste, hein, en 1877, les Républicains n'ont eu de cesse d'instaurer le ministère de l'Instruction publique, qui s'est clairement donné pour objectif de faire des républicains, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens votent à gauche. Et ça reste encore aujourd'hui une mission essentielle de l'éducation nationale que de faire en sorte que pas un enfant n'échappe dès son plus jeune âge à son formatage idéologique. Et donc la mission de l'éducation nationale, maintenant qui s'appelle plus instruction publique, d'ailleurs c'est intéressant, depuis 1932, c'est
oui.
Éducation nationale, c'est de faire des gens qui votent à gauche.
Oui, d'ailleurs, il faut aussi rappeler que cette gauche-là était anti-féministe et ne donnait pas le droit de vote aux femmes parce qu'on craignait l'influence de l'Église au travers des femmes.
Absolument, c'était le grand argument pour ne pas donner le droit de vote aux femmes, c'est que les femmes, elles passent trop de temps au confessionnal et que donc à travers elles... Et d'ailleurs, on l'a vu effectivement massivement, puisque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, après qu'on leur ait donné le droit de vote, elles ont massivement voté pour le MRP.
Oui.
Elles ont été l'une des raisons de son succès.
Oui, évidemment. Ça, c'est une chose. Et puis alors, moi, je regrette effectivement, vous le soulignez fort bien, ministère d'Instruction publique, c'est bien, mais éducation nationale, surtout après les régimes totalitaires que nous avons connus, ça sonne mal aux oreilles. Surtout,
oui,
avec les certains dogmes nouveaux qui sont apparus dans l'enseignement, parce qu'il y avait quand même chez Jules Ferry, et c'est la laïcité la mode Ferry, et moi j'ai encore connu ça à l'école primaire, hein, donc je suis né en 44, donc j'ai encore connu ça à l'école primaire, il y avait quand même le respect des familles et de ce que voulait le père de famille, hein. La lettre de Ferry aux instituteurs est très claire là-dessus. Sur le plan moral, par exemple, si vous pensez que ce que vous allez dire va choquer un seul père de famille, ne le dites pas.
Oui, il parle de la morale de nos pères. Quand quelqu'un lui demande « Mais qu'est-ce que la morale républicaine qu'on va enseigner à la place du catéchisme ?» Il a dit « C'est la morale de nos pères. » Donc à l'époque, il n'y avait pas de diff. Moi-même, bon, je suis un peu plus, encore plus jeune que vous. Je suis de 61, mais à l'école primaire des années 1960, on avait des cours de morale et je ne voyais aucune différence entre ces cours, le contenu de ces cours de morale et ce que je pouvais entendre au catéchisme en parallèle. Effectivement, mais par contre, effectivement, bon, d'une part, avec la séparation de l'Église et de l'État, la morale républicaine s'est éloignée progressivement de la morale chrétienne et s'est tournée de plus en plus vers ces fameuses vertus chrétiennes devenues folles. Mais comme je le montre dans mon livre, et là aussi, c'est un aspect religieux de la gauche. Elle reprend finalement ce qui est le maître mot du christianisme, à savoir la libération.
Oui.
Il s'agit de toujours plus nous libérer. Donc la gauche, et à travers elle la République, est une sorte de toboggan savonneux dans lequel on a jamais fini de glisser vers toujours plus de libération. On en arrive même aujourd'hui à libérer l'homme de lui-même et à libérer l'homme de l'obligation de vivre. Hein, on peut décider qu'on veut changer de sexe et on peut décider qu'on a envie de mourir si on le sent. Si on le sent comme ça, moi je suis frappé. J'avais un grand-père que j'aimais beaucoup, qui était vieux militant socialiste et qui était un membre du Grand Orient de France. Bon, bah, je dirais que aujourd'hui il passerait pour un extrémiste de droite totalement, parce qu'effectivement, pour lui, un homme était un homme et une femme une femme. Et un Français, un étranger. D'ailleurs, j'ai découvert récemment une loi Salengro, qui date des années 30, qui décrète la préférence nationale pour ce qui est de l'accès aux emplois.
Donc, ah ben, je suis très heureux, oui, que vous nommiez Salengro, parce que justement, j'allais vous parler du Front Populaire et d'un homme que j'affectionne beaucoup, c'est Léon Blum. Pour moi, il y a deux grands hommes politiques au XXe siècle, c'est Blum et De Gaulle. Hein, c'est clair, je cite dans l'ordre chronologique. Mais c'est vrai que il y avait quand même, chez Léon Blum, d'abord, il a vu dès 1920, il faut quand même le dire, ce qu'allait devenir le communisme soviétique. Hein. Il l'a vu à ce moment-là. Il y en a qui vont mettre du temps. Il va falloir attendre 1968 et l'affaire Tchèque pour que certains les aient ouverts.
Et d'où la prudence de Léon Blum au sujet de l'affaire espagnole.
Ah bah, et d'où la prudence aussi de Léon Blum vis-à-vis de l'affaire espagnole. Bon, et puis...
Je me permets de vous interrompre, mon père, une seconde pour dire qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore compris. Quand on voit que M. Brossa, qui est conseiller municipal de Paris, parle de falsification de l'histoire quand on parle des millions de morts du communisme. Je ferme la parenthèse.
Oui, exactement. Mais Blum savait tout ça, et contrairement aussi à ce que l'on dit, il a tout de même, c'est le premier président du Conseil de cette deuxième phase de la Troisième République qui a écouté le général de Gaulle pour la guerre des chars, alors que Pétain, en 1934, qui était ministre de la guerre, ne l'a pas écouté. C'est là que date leur fâcherie. De Gaulle Blum a ordonné à Daladier, qui était aux armées, de s'équiper en char et aussi en avion. Enfin, on a écouté De Gaulle, mais Blum dit bien que il le dira au procès d'Orion. Ça. C'est là qu'on arrêtera d'ailleurs le procès. Que ça n'a pas été facile à faire accepter parce que certains grands patrons de droite traînaient du pied. Il semblait qu'on avait beaucoup plus peur de Staline que de Hitler. Ça explique beaucoup de choses. Alors, je le rappelle à certains, nos amis, peut-être auditeurs, qui ont le Front Populaire en détestation, qui l'accusent quelquefois d'être la cause de la défaite. Non, là, il y avait une gauche quand même encore humaniste et qui a par exemple veillé à cette venue extraordinaire du futur Pie XII, qui était secrétaire d'État, du pape Pie XI à Lisieux pour inauguré la cathédrale, la basilique de Lisieux, et puis qui était ensuite venu à Notre-Dame comme légat du pape, c'était sous la présidence de Chautan, et Blum était, il était reçu avec tous les honneurs, et c'est là que Pacelli est monté en chaire et a fait ce fameux discours que je conseille à tous nos auditeurs de relire sur la France, sur le passé chrétien de la France et toute cette organisation grandiose. Hein, parce que la République l'avait mis vraiment tout ce qu'elle pouvait, un légat. Hein, et ils avaient bien retenu les questions des cérémonies. Le légat est reçu comme si c'était le pape en personne. Et Pacelli a été reçu comme si c'était le pape en personne. Il y avait les troupes en revue, il y avait tout, absolument tout, et les honneurs gouvernementaux, voilà. Et à Notre-Dame.
Jean-François Chemin, vous ne le dites pas dans votre ouvrage, mais est-ce que l'on peut parler de dégauche? Est-ce qu'il existe plusieurs gauches selon vous, ou bien est-ce que la gauche suit une ligne directrice sans forcément qu'il y en ait plusieurs, disons?
J'ai pas compris le début de votre question.
Est-ce que selon vous, à la suite de ce que dit le Père Vieux au sujet du Front Populaire, il existe plusieurs gauches?
Ah, alors oui, il existe bien sûr plusieurs gauches. On le voit bien d'ailleurs aujourd'hui sur l'échiquier politique, différentes sensibilités. Mais je crois néanmoins que, alors ils ont une très forte capacité, évidemment, à se disputer, à se bouffer le nez, pourrait-on dire vulgairement. Mais elles ont néanmoins une très forte conscience collective du fait d'être de gauche, et elles savent s'allier malgré leur détestation mutuelle dans certaines circonstances, notamment pour faire barrage à l'extrême droite. Et donc je pense que dans la diversité de la gauche, il y a néanmoins des points communs qui sont des points communs extrêmement forts, et à des simplement, on va dire, c'est plus ou moins dilué, sachant que dans ces points communs, j'engloberai aussi une partie de la droite. Disons que pour moi, le critère, dans le fait d'être de gauche, est un critère de position vis-à-vis du peuple. C'est-à-dire que je considère comme étant de gauche toute personne qui se positionne au-dessus du peuple, encore une fois, non pas pour l'écouter, mais pour lui faire la leçon, et éventuellement le condamner. Donc on peut tout à fait trouver à droite des gens qui ont fait carrière comme homme ou femme politique de droite, et qu'on va retrouver, d'ailleurs aujourd'hui, tentant dans certaines circonstances de se rapprocher de la gauche, pour condamner ce qu'on appelle aujourd'hui le populisme, ou toutes ces tendances et sensibilités qui, elles, sont à l'écoute du peuple et peut-être favorables à une forme de démocratie directe. Voilà. Donc, la gauche est diverse et en même temps, elle est fondamentalement une dans la posture. Voilà. C'est comme ça que je le résumerai.
Et selon vous, la gauche, alors là je reprends votre ouvrage, donc vous dites bien que la gauche donc, est issue d'un courant spécifique, donc du coup de l'Église, et qu'elle est, je cite, un conservatoire, d'hérésie. Pourquoi?
Alors voilà, donc le point commun des gens de gauche, c'est qu'ils ont la certitude que la frontière entre le bien et le mal passe entre eux et les autres. Il y a eu un débat, la charnière du 4e et du 5e siècle, entre saint Augustin d'un côté et un moine breton qui s'appelait Pélage, affirmant que l'homme peut faire son salut par lui-même. C'est une question de volonté. Si je veux être un saint, alors je serai un saint, et si je n'y arrive pas, c'est parce que je manque de volonté, et la promesse, la menace d'une punition sévère pourra m'y pousser. Alors, saint Augustin a répondu à Pélage en disant non, nous sommes souillés tous autant que nous sommes par le péché originel, et nous ne sommes sauvés que par la grâce de Jésus-Christ. Alors, on retrouve le pélagianisme, qui a donc été condamné officiellement par l'Église, dans différents courants, notamment, on le retrouve dans l'humanisme, on le retrouve dans Jean-Jacques Rousseau, l'homme est naturellement bon, on le retrouve dans Robespierre, la vertu sans la terreur est impuissante, donc finalement, menaçons les gens de leur couper la tête, Et ils seront parfaits. Alors, on n'est pas dans le pélagianisme parce qu'il n'est pas encore apparu, mais il y a aussi clairement chez les pharisiens que combat le Christ en permanence, hein, cette idée que voilà, il y a des gens qui ont choisi le bien et en face d'eux, il y a ceux qui ont choisi le mal. Donc, je pense que la gauche considère qu'elle est par essence le camp des gens qui ont choisi le bien et qui sont donc des gens bien, des gens de bien. Et que en face, on va retrouver des gens qui eux se savent pêcheurs. Ce que j'appellerais moi l'extrême droite, puisque c'est un terme dont on aura l'occasion de reparler dans un instant, je pense. Mais ce serait plutôt les gens qui eux ont fait délibérément le choix du mal. C'est-à-dire que pour moi, on parle de la mafia aujourd'hui, ou on parle de Epstein, etc. Pour moi, c'est ça qu'il faut combattre. Maintenant. La gauche est persuadée qu'elle est le camp du bien, et j'ajouterai une nuance un peu ethnologique. Elle me fait penser, la gauche, au brahman dans la civilisation hindouiste, hein, qui est une civilisation indo-européenne comme la nôtre, avec effectivement les trois fonctions, les trois ordres de la société, ceux qui produisent, ceux qui combattent et ceux qui prient. Le politique structurellement fait partie du premier ordre, c'est-à-dire de l'ordre de ceux qui prient. Donc pendant très longtemps, c'était l'intermédiaire entre les dieux ou Dieu et les hommes. Eh bien, chez les hindous, ce sont les brahmanes qui correspondent à la première fonction, avec cette notion de pureté. Hein. Le brahman est un être qui est pur et qui ne doit pas se mêler à des gens qui, eux, sont structurellement impurs, c'est-à-dire la plus basse caste de la société, c'est-à-dire les intouchables. Et l'homme de gauche, clairement, va avoir cette tendance à se considérer comme quelqu'un de pur, qui n'a pas à se mélanger aux gens impurs. On le voit bien, par exemple, dans cette idée de refuser de serrer la main aux gens du Rassemblement national, ou bien dans ce refus de se présenter sur certaines chaînes de télévision, etc., etc. Voilà. Donc, alors, il y a un premier type d'hérésie, effectivement, comme le pélagianisme, qui considère que l'homme peut faire son salut par lui-même, mais il y a aussi un autre type d'hérésie qui est un peu l'inverse, hein, qu'est-ce que j'appellerais les hérésies augustiniennes, comme les calvinistes, les puritains ou même les jansénistes, qui considèrent que effectivement il y a des gens qui sont prédestinés par Dieu. Tout le monde est pécheur, mais il y en a certains qui sont prédestinés par Dieu à être sauvés. Voilà.
C'est un
Et je pense
durcissement
que
de Saint-Augustin, hein, ça.
voilà, c'est un durcissement de Saint-Augustin, bien sûr, hein. C'est une conception extrémiste de Saint-Augustin. Mais on retrouve là aussi la gauche de ce côté-ci de l'hérésie. Donc on les retrouve soit du côté des gens qui pensent qu'ils ne sont pas pécheurs, soit du côté de ceux qui pensent qu'ils sont pécheurs, mais que Dieu les a prédestinés à être sauvés. Voilà. Et dans tous les cas, ils font véritablement une frontière d'ordre religieux entre eux et les autres, qui eux se savent pécheurs et espèrent être sauvés par leurs bonnes actions, sachant qu'ils ont bien conscience que leurs bonnes actions seront toujours bien limitées et ne permettront pas de changer définitivement le monde.
Et vous dites également dans votre ouvrage que la gauche, comme le sujet de l'émission, c'est une nouvelle religion, porte en elle certaines caractéristiques, disons, de l'Église, et notamment ses défauts. Notamment, vous dites que la gauche pratique une forme d'inquisition qui conduit à ses opposants à la mort sociale.
Alors tout à fait. Le paradoxe de la gauche, c'est que elle passe son temps à dénigrer l'Église, parfois à raison, parce que l'Église n'est évidemment pas exempte de fautes, de péchés au cours de son histoire. C'est tout le mystère de l'Église, hein, c'est qu'elle est sainte, elle est l'épouse du Christ, et en même temps c'est une institution humaine qui est capable, ou dont certains membres sont capables de pécher. Donc effectivement, on a parlé du cléricalisme. Hein. Je pense que la gauche, vous l'avez compris, tout en reprochant à l'Église le cléricalisme, hein, vous connaissez la phrase de Gambetta, le cléricalisme, voilà l'ennemi, la gauche est profondément, elle est intrinsèquement cléricale. on a beaucoup aussi reproché, et c'est ce qui se fait beaucoup dans les loges maçonniques du Grand Orient notamment, le dogmatisme de l'Église. Mais la gauche passe son temps à inventer de nouveaux dogmes, hein, qu'il n'y ait pas de différence entre les sexes, que ce soit quelque chose de purement culturel. C'est un dogme aujourd'hui qu'il est impossible de combattre sans la mort sociale. Et puis donc cléricale, dogmatique, la gauche est aussi inquisitrice. C'est-à-dire que toute personne qui va à l'encontre des dogmes qu'elle a établis est condamnée socialement, même condamnée pénalement. Et d'ailleurs, j'ai agrémenté mon livre d'un petit schéma, mais qui me semble effectivement instructif, où je montre comment les corporations de gauche, les métiers de gauche se répartissent la tâche. Vous avez tout d'abord des universitaires ou des chercheurs en sciences molles qui inventent de nouveaux dogmes. Alors on va prendre effectivement le fait que les hommes et les femmes, c'est la même chose. Voilà. Bon. Donc au début, ça, c'est quelque chose qui semble un petit peu incongru, mais qui va être largement ensuite véhiculé par ce bas clergé qu'est l'Éducation nationale, par cet autre clergé qu'est la presse, par cet autre clergé qu'est le monde de la culture, à travers notamment les petites séries télévisées, etc., etc. Et puis ensuite, le monde politique va s'emparer de la chose en disant « la société a changé ». Mais la société n'a pas changé du tout. C'est simplement le discours qui est véhiculé de manière obsessionnelle par les différentes corporations cléricales qui commencent à influencer les esprits. Alors, on vote des lois. On vote des lois qui font changer les choses et qui juridiquement et qui sont cette fois-ci assorties de sanctions pénales. Donc, si au début effectivement la théorie du genre est une théorie qui semblait absolument absurde et même impensable à tout le monde, aujourd'hui elle est présentée par la cléricature comme une évidence et la contester est un délit pénal qui peut donc vous emmener devant les tribunaux pour le péché. Absolu, hein, enfin c'est deux péchés absolus d'ailleurs qui sont ceux qu'on peut avoir pour la gauche, puisque le christianisme c'est amour et vérité, eh bien la gauche se prétend la défenderesse ou la défenseuse de l'amour et de la vérité, et donc si on n'est pas d'accord avec elle, eh bien on est un menteur et quelqu'un de haineux, voilà. Et la boucle est bouclée.
Alors comment expliquez-vous que la gauche comme une nouvelle religion, comment exprimez-vous qu'il y ait des chrétiens de gauche? Parce qu'il y a des chrétiens de gauche, on voit très bien. Il y a des chrétiens, je pense par exemple, on ne va pas froisser les gens d'aujourd'hui, mais au moment du programme commun, au moment de 1973, on savait que le président Pompidou ne terminerait pas son mandat puisqu'il était très malade. On se préparait donc à des élections. M. Mitterrand avait signé avec les communistes un programme commun. Et je vous rappelle quand même que 1973, 1974, au moment où meurt Georges Pompidou, c'est tout de même l'URSS est quand même très très puissante. Hein, elle est quand même assez inquiétante. Bon, or ils espéraient bien passer en 1974. Donc avec quatre ministres communistes et un programme commun, on a vu ce que ça a donné, on l'a appliqué quelques années. Mais ce qui est amusant, c'est que dans les années 72, 73, 74, aussi bien la Fédération protestante de France, puisque j'étais pasteur à l'époque, on a sorti un document Église et pouvoir, et du côté catholique, il y a eu des documents sur la compatibilité du socialisme avec le christianisme. Il y a eu un christianisme de gauche très œcuménique, si vous voulez, à ce moment-là, et qui était très clair en 1974. Je suis sûr qu'en 1974, au premier tour, beaucoup ont voté pour Georges Marchais, n'est-ce pas ? Et qu'ils ont bien été embêtés au second tour. Ils ont voté François Mitterrand, n'est-ce pas ? Et voilà. Donc ce christianisme de gauche, comment l'expliquer ?
C'est une très vieille histoire, mon père, parce que ça commence peut-être même avant, mais enfin en tout cas je vois dans Jean-Jacques Rousseau, qui a eu une grande influence sur la Révolution française et sur la gauche, j'en vois une source. Que dit Jean-Jacques Rousseau ? Il dit qu'il y a deux types de religions. Il y a une religion personnelle, une religion individuelle qu'on peut pratiquer dans son coin, dans une chapelle, dans les bois, etc., en s'adressant directement à Dieu. Ça, ça ne regarde que nous. Mais il faut également une religion civique, une religion d'État, une religion obligatoire sous peine de mort, qui soit donc gérée par l'État. Et quand il réfléchit au contenu qu'il faut lui donner, il dit, bah, finalement, moi, la morale chrétienne me va bien. Et c'est vrai que je dirais que l'esprit de gauche, c'est la morale chrétienne dont on fait une application politique, c'est la morale évangélique dont on fait une application politique. Je suis très frappé, moi, pratiquant, que régulièrement, j'entends des textes, qu'ils soient soit des textes de l'Ancien Testament, notamment chez Isaïe, ou bien des textes du Nouveau Testament, si on en fait une application politique, peuvent donner lieu à une application politique et obligatoire, peuvent donner lieu à un programme de gauche. Bon, la Révolution, comme on l'a dit, la Révolution française a très largement été faite par des religieux qui étaient des gens sincères. Simplement, effectivement, ils mettaient d'abord la morale évangélique avant l'œuvre de Dieu qui nous permet de nous rendre compte que de toute façon, on n'arrivera pas à faire un monde parfait sur cette terre, qu'on est éminemment pêcheur. Bon, voilà. Alors, il y a un autre facteur également qui, pour moi, me semble important. À partir du début du XXe siècle, tout ce qui est action catholique, c'est-à-dire cette volonté pontificale de plonger les chrétiens, aussi de modernité, dans les luttes de leur temps, et on va se retrouver donc avec des militants chrétiens, hein, et le vocabulaire est important, on va les retrouver à la jeunesse ouvrière chrétienne, mais moi je me souviens avoir fait une conférence il y a quelque temps, où à la fin un vieux militant communiste est venu me voir en me disant, et moi je suis un ancien de la jeunesse ouvrière chrétienne et nous sommes passés avec armes et bagages au parti communiste dans les années 60, on va les retrouver à la jeunesse étudiante chrétienne. Et je rappelle que le philosophe stalinien Althusser était un ancien de la jeunesse étudiante chrétienne. On va les retrouver dans cette CFTC qui est devenue CFDT et qui, dans ma jeunesse, faisait de la surenchère à gauche par rapport à la CGT communiste. Donc, il y a véritablement, et encore aujourd'hui, bon, j'en dirais pas de mal, parce qu'en plus, c'est des amis qui ont fondé ça, mais un mouvement qui s'appelle Anastasis, qui a été fondé par des jeunes normaliens qu'on appelait les altercatos, qui à l'époque étaient venus me demander des conseils pour savoir, bon, quelle direction ils devaient s'orienter, mais aujourd'hui, Anastasis, c'est un mouvement qui fait de la surenchère catholique sur LFI. Hein, voilà. Donc, il y a véritablement, encore une fois, moi, je prends, comment dire, cette image de la croix. Hein, la croix, elle comprend effectivement un axe vertical et un axe horizontal. Je pense que le juste milieu, l'équilibre, ben, se trouve à la charnière de ces deux axes, ben, là où se trouve Jésus-Christ, hein, finalement. Mais il y a un travers qui serait effectivement de ne privilégier que l'axe vertical de la relation à Dieu sans relation au monde. Mais il y a un deuxième travers qui consiste effectivement à vouloir uniquement changer le monde en considérant que la relation à Dieu est secondaire. Et que finalement, alors que c'est cette relation à Dieu, et notamment, on l'a bien vu pendant des siècles avec la cérémonie du sacre de nos rois, hein, il y a que cette force divine, cette inspiration divine et cette sagesse divine qui était donnée par le sacre, qui permettait au roi de gouverner sagement, hein, et efficacement. Et d'ailleurs, c'est ce que dit très justement l'encyclique Quas Primas, dont on a célébré le 100e anniversaire il y a quelques jours, hein, que s'étant coupé de la relation à Dieu, et notamment du sacre, hein, nos sociétés contemporaines sont soit vouées à l'anarchie et à la révolution, soit vouées au totalitarisme. Hein. Et c'est ce qu'ont perdu de vue les chrétiens de gauche, qui sont uniquement dans la praxis, qui sont dans l'action. Et après, je ne sais pas comment ils sont au fond de leur cœur, mais on aimerait voir un petit peu plus chez eux de mystique et un petit peu moins de politique, voilà.
D'ailleurs, vous savez, regardez le pape François, qui n'était pas spécialement un intégriste, hein, a tout de même dit que ce qui menaçait le plus le catholicisme en ce moment, c'était le semi-pélagianisme. Voyez-vous.
Voilà, tout à fait.
Eh oui.
Entre parenthèses, la gauche et à travers elle aujourd'hui la République sombrer dans le pélagianisme. Hein. Si vous considérez les trois grandes fonctions de l'Église, qui sont gouverner, enseigner, sanctifier, bon, ça fait bien longtemps que l'Église, depuis la Révolution, a perdu toute relation avec le pouvoir. Alors, traditionnellement, elle était associée au pouvoir, hein, voilà, ce qui la rendait d'ailleurs assez responsable dans certaines prises de position. Bon, ensuite, le combat s'est porté sur l'enseignement, et le combat continue, je dirais, hein, puisque les attaques contre l'enseignement catholique aujourd'hui sont plus virulentes que jamais. Mais je pense qu'aujourd'hui, la mission de l'État s'est dirigée vers la sanctification. Hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a complètement abandonné ses missions régaliennes. Il ne garantit plus la sécurité, il ne protège plus les frontières, il ne bat plus monnaie, il n'enseigne plus comme il faut. En revanche, il est à fond dans cette mission de sanctification. Il faut lutter contre nos haines, contre notre racisme, contre nos xénophobies, contre notre manque d'amour de l'étranger. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'État sanctificateur dans une logique pélagienne totalement qu'on retrouve totalement, effectivement, à gauche, hein, qui est celle de la gauche.
Nous prenons un petit moment là pour le bobino, et nous reprenons quelques secondes.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Jean-François Chemin, donc pour continuer et pour rebondir sur ce que vous dites, dans votre ouvrage, vous n'hésitez pas non plus à évoquer, alors je vous cite, que les victimes de la gauche ont quand même toujours un peu mérité leur sort et sont de toute façon placées sur le plateau d'une balance globale, de la révolution est un bloc dont on ne peut rien distraire. Selon vous, pourquoi la gauche a tendance à qualifier d'extrême droite tous ses opposants de façon à mieux les combattre?
Voilà, alors effectivement, ces deux questions se rejoignent dans cette idée que, encore une fois, la gauche, dans une logique pélagienne, considère qu'elle est le bien en lutte contre le mal. Donc par définition, tout ce qui n'est pas de gauche, ou en tout cas tout ce qui ne... Alors, soit des gens qui se définissent comme n'étant pas de gauche, et donc comme étant de droite. Mais même les gens d'ailleurs qui refusent de se définir, j'entendais récemment quelqu'un sur France Inter qui disait que ceux qui disent qu'ils sont ni de droite ni de gauche, en fait sont de droite. Bon, et donc si on n'est jamais de droite, on est toujours d'extrême droite, parce que ils ont toujours cette formule, la droite et l'extrême droite, pour montrer que la droite n'est toujours qu'un sas de compression vers une extrême droite qui ne demande qu'à arracher son masque pour révéler son sinistre fond qu'elle dissimule. Donc, si on n'est pas de gauche, on est forcément, la gauche étant l'amour et la vérité, on est forcément dans la haine et le mensonge. Et donc, on doit être combattu. On n'est pas considéré comme un adversaire politique, on est considéré comme un ennemi. Et c'est pourquoi, dès l'origine, je fais commencer la gauche avec la Révolution française, dès l'origine, la gauche a commencé à éliminer massivement, et je crois que ça fait partie de son ADN, et en toute bonne conscience, les gens dont elle considérait qu'ils n'étaient pas de gauche ou pas assez de gauche. Alors ça a été la terreur, mais on a vu ensuite ce qui s'est passé en Russie, on a vu ensuite ce qui s'est passé en Chine, on a vu ce qui s'est passé au Vietnam, enfin partout où la gauche est au pouvoir. Elle élimine, ou même maintenant, puisque les archives commencent à sortir et à être étudiées par des chercheurs un peu plus objectifs, ce qui s'est passé pendant la guerre d'Espagne, où on sait aujourd'hui que, malgré le discours officiel, les massacres de la gauche ont été bien plus importants que ceux des franquistes. Bon, voilà. Donc la gauche considère qu'il est malheureux, sans doute, mais pas totalement illégitime, que d'éliminer en masse des adversaires politiques qui sont des obstacles à l'avènement du bien pour le genre humain. Alors c'est effectivement ce qualificatif d'extrême droite que la gauche accole à toute personne qu'elle considère comme n'étant pas de gauche ou pas assez de gauche. Eh bien, ce qualificatif d'extrême droite fait qu'il n'y a même pas besoin de discuter. Vous êtes quelqu'un dont les idées ne sont pas... pas débattre avec vous, vos idées sont un délit. Comme jadis, on aurait dit qu'elles étaient un péché, qu'elles étaient une hérésie, parce que la gauche ne veut connaître que des pécheurs ou des hérétiques. Si vous êtes un intellectuel, vous êtes un hérétique. Si vous n'êtes pas un intellectuel, vous n'êtes qu'un pécheur. Mais vaut mieux être un pécheur vite repentant, hein, parce que effectivement, errare humanum est, mais perseverare diabolicum. Donc la gauche a tendance systématiquement à diaboliser ses adversaires, et on le voit aujourd'hui avec les malheureux événements qui se sont déroulés à Lyon avec le jeune Quentin de Ranque, hein, où effectivement on voit la gauche défendre vent debout, hein, ce qui s'est passé en disant de toute façon c'est quelqu'un qui faisait partie du camp du mal qui a été éliminé et qui quelque part il l'a pas volé, hein, voilà. Donc cette nature cléricale de la gauche et le fond éminemment religieux de sa pensée qui font qu'elle n'hésite pas, elle n'a jamais hésité à éliminer ses adversaires. Alors je vais prendre beaucoup de risques peut-être en faisant une petite digression sur le national-socialisme qui constitue l'arme fatale pour la gauche, mais clairement je dois manquer, effectivement je suis à ce point pétri de mauvaises intentions que j'ai du mal à voir la différence sur le fond entre cette idéologie qui s'appelle d'abord socialiste, mais également national, et l'idée nationale au départ est une idée de gauche, et dont le mode de fonctionnement intellectuel est parfaitement conforme à la pensée de gauche. On a un discours idéologique qui dit que il y a une masse de braves gens, de bonnes gens. Alors, à gauche, on dirait les prolétaires. Chez les nazis, on dit les Allemands, qui ne trouveront enfin le bonheur qu'ils méritent que lorsqu'on aura définitivement mis hors d'état de nuire ceux qui font obstacle à ce bonheur. Alors dans un cas, chez Staline, la bourgeoisie, le clergé, etc. Chez Hitler, les Israélites. Bon, et donc on met en œuvre ce programme avec sans état d'âme, avec cette idée qu'une fois qu'on sera passé par ce préalable bien 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 malheureux, enfin on pourra vivre libre et heureux. Je ne vois pas de différence intellectuelle. Franchement, je dois être trop bête ou trop méchant, probablement, mais je ne vois pas de différence intellectuelle. Alors évidemment, je pense que là, ce qui fait que, à juste titre, le nazisme est une idéologie bien évidemment totalement indéfendable, mais c'est ce qui fait que le stalinisme, à la même époque, passe pour lui défendable, mais c'est qu'il a gagné la guerre, hein, et que donc il s'est retrouvé effectivement du côté des Américains, des Anglo-Saxons, des Français, etc., et qu'on a mis très très longtemps à ouvrir les fosses communes qu'il a pu créer. Voilà. Mais encore une fois, cette arme fatale de la réduction ad Hitlerum qu'utilise massivement la gauche me semble du nominalisme. Je ne vois pas en quoi le nazisme serait une idéologie d'extrême droite. J'ai pas le souvenir qu'Hitler se soit défini comme étant quelqu'un d'extrême droite. Voilà. Donc pour moi, c'est une idéologie de gauche comme les autres.
Ah ben ça me fait plaisir de vous entendre parler de nominalisme, parce que nous sommes en plein dedans, évidemment, en ce moment. Et aussi, je pense que finalement, une organisation n'échappe jamais aux conditions dans lesquelles elle est née. Et cette révolution française avec sa première monarchie constitutionnelle, ce qu'on appelle l'Assemblée législative, ben c'est ce qui m'a toujours frappé. C'est que quand les ministres qui étaient mis en minorité, enfin bon, aujourd'hui, bon, bah, ils retournent, ils redeviennent députés. Bon. Non, on les envoyait devant la haute cour d'Orléans. Déjà, ils étaient mis en accusation. Parce qu'on était, on n'était pas d'accord avec l'Assemblée. D'ailleurs, ça vaudra à certains de revenir au mois de septembre 92 et d'être massacrés sur la route qui les menait à Paris. Bon. Voilà. Et puis il y a eu les massacres de septembre. Bon. Et puis alors vous avez aussi, eh bien, je crois que tout simplement, là on en revient au nazisme. Hein. Et puis aussi à Robespierre, encore lui. Robespierre qui fait un magnifique discours en 90 ou 91 contre la peine de mort. Bon, remarquable, remarquable, remarquable. Je pense que Maître Badinter n'aurait pas fait mieux. Bon. Et qui demandera la mort pour le roi, sans procès. Et il demandera d'ailleurs à l'Assemblée, c'est logique aussi, parce que on peut pas le mettre en jugement, et là il a raison, puisque sa personnalité est inviolable, donc tout ce qu'il a fait comme roi jusqu'au 10 août ne peut pas être jugé. Alors, c'est par tout simplement une ambistrouille, qu'on arrivera à faire un procès. Mais sur le plan du droit, là, Robespierre avait raison. Mais il dit simplement, il faut l'assassiner. Pourquoi ? Eh bien, oui, il est contre la peine de mort. Mais voilà, le roi n'est pas un homme. C'est un monstre. Bon. Et quand il s'agira des Vendéens, eh ben, ce ne sont pas des hommes non plus. Ce sont des brigands. Ils sont irrécupérables. Et c'est comme ça que va s'installer, à mon avis, l'idée de créatures humaines qui ne sont plus des hommes, qu'on appellera quelquefois même des sous-hommes, et qui font donc par conséquent illuminer. Pour Staline, par exemple, quand on ne voulait pas participer au paradis communiste, on ne pouvait être que fou. Donc on vous mettait dans des asiles psychiatriques. Pour Hitler, c'était la mort miséricordieuse dans un premier temps. Hein, et puis après, on fera ça à plus grande échelle. Voilà. Et puis maintenant qu'on va avoir l'euthanasie et le suicide assisté, ben, ce sera encore plus facile.
Oui, tout à fait. Donc cette diabolisation, cette déshumanisation de l'ennemi, de l'adversaire politique, commence tout à fait à la Révolution française. Et on arrive quand même avec des régimes politiques comme celui de Pol Pot, qui en 4 ans a réussi à éliminer un quart de la population cambodgienne. Sachant qu'aujourd'hui, je ne connais pas de dirigeant communiste qui ait été jugé. Ces crimes, qui sont quand même des crimes à grande échelle, sont complètement on n'en parle pas. Je sais qu'il existe un musée de l'invisible où on parle des causes de l'invisibilité. Alors l'invisibilité, elle résulte de l'infiniment petit, elle résulte de l'infiniment rapide, comme une balle de fusil, on la voit pas passer, mais elle résulte aussi de l'infiniment gros. Ce qui est énorme, tellement énorme que l'esprit humain ne veut pas le concevoir. Eh bien, je crois que les crimes du communisme dans l'histoire sont tellement énormes qu'on n'arrive pas à les concevoir, et donc on ne les voit pas. Voilà. Et je pense que c'est un des éléments essentiels de l'impunité, hein, dont, avec le fait évidemment que comment dire, qu'ils sont persuadés d'avoir fait ça pour le bien de l'humanité, hein, mais ces crimes sont tellement énormes qu'on ne les conçoit pas.
Ah, ça rejoint un peu ce que je crois que c'est Goebbels qui disait, que plus un mensonge est gros et énorme, plus il passe.
Mais tout à fait. Mais je lisais récemment un livre qui vient de reparaître, qui n'est pas paru depuis les années 20, qui sont les souvenirs d'un tchéquiste. Oui. Et donc un militant communiste qui, dans les années début des années 20, participer à des exécutions de gens. Alors c'était véritablement industriel. On amenait les gens en camion, on les rentrait dans un sous-sol, on les déshabillait et on leur tirait une balle dans la tête, et puis ils repartaient ensuite pour être brûlés. Et puis c'était véritablement fait des fins industrielles. Ce livre est paru dans les années 20 avec une préface d'un communiste soviétique de l'époque qui disait que ce qui est admirable dans ce livre, c'est que l'auteur n'éprouve aucune compassion, ce qui pour lui est un sentiment petit bourgeois. Alors c'est tellement terrible que ça n'a pas été réédité pendant un siècle. Et ça vient aujourd'hui d'être réédité, donc tout un chacun, donc on est avant Staline, là on est à l'époque de Lénine, hein. Tout un chacun peut... J'ai lu dans une histoire du KGB qui est parue il y a quelques années, dont on m'avait demandé de faire la recension, le fait que les 3 premières semaines de la révolution communiste, on a tué plus de monde que le régime tsariste en 2 siècles. Voilà, bon. Hein, tout ça, c'est tellement énorme, d'un côté, et en même temps, c'est tellement revendiqué au nom du bien, et que, comme vous le disiez, de l'élimination de gens qui, quelque part, l'ont pas cherché, et sont une forme de sous-humanité qui font obstacle à l'avenir radieux du genre humain, bah, tout ça est parfaitement assumé.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites, Jean-François Chemin, dans votre ouvrage, que lorsque le communisme, enfin les horreurs du communisme, pardon, ont lieu, ce n'est pas l'idée en elle-même qui est en faute, mais sa mauvaise application. C'est toujours comme ça qu'on justifie, selon vous, les crimes de la gauche.
Ben tout à fait, et ça, encore sur des conversations récentes que j'ai pu avoir, c'est tout à fait ça, mais alors c'est exactement comme si on allait dire que les crimes du nazisme ne sont que le résultat d'une mauvaise application, d'une mauvaise compréhension. Non, je crois qu'à un moment donné, il faut quand même constater que quand les mêmes causes produisent à peu près systématiquement les mêmes effets, c'est quelque part. Alors, je ne dis absolument pas que ces gens sont mauvais, hein. Je dis qu'ils se trompent. Je dis qu'ils se trompent dans leur prétention à incarner totalement le bien en lutte contre le mal, et que les choses n'évolueront dans le monde d'abord que d'une manière limitée, parce qu'on n'aura jamais dans la cité des hommes, on n'atteindra jamais à la perfection, hein, mais elles ne pourront évoluer de manière limitée que quand chacun aura fait sur soi-même un effort pour lutter contre son propre péché. Ce n'est absolument pas la peine qu'un homme de gauche ou une femme de gauche vienne m'expliquer que je suis pécheur. Je le sais, donc, sauf que j'ai la certitude que cette personne en face de moi l'est ni plus ni moins que moi. Par contre, elle a ce petit défaut que peut-être je n'ai pas, c'est de se croire moralement supérieur à moi. Voilà, donc, luttons effectivement contre nos propres défauts, nos propres manques d'amour, voilà, les choses iront un peu mieux.
Et vous mettez aussi en avant une contradiction de la gauche. Vous dites, je vous cite page 80, que la gauche veut toujours plus d'État, alors que justement, le communisme, l'aboutissement du communisme, c'est l'absence d'État.
Oui, alors effectivement, l'aboutissement du communisme, en théorie, c'est l'absence d'État, mais de fait, pour en arriver à cette absence d'État, ça nécessite un certain nombre de préalables, et de fait, le communisme en reste toujours à l'étape dictature du prolétariat, hein, qui en fait, de dictature du prolétariat, on passe assez rapidement à dictature d'une nomenclatura, qui n'est que l'imitation, enfin, un avatar de la cléricature dont je parle. Effectivement, mais partout, le propre de la gauche consiste à éliminer tout obstacle à la toute-puissance de l'État. Et c'est d'ailleurs pour ça que je conteste radicalement cette idée que la Révolution française nous aurait apporté la liberté. Hein. La Révolution française, elle n'est qu'une étape qui se situe dans la continuité d'un mouvement qui lui est bien antérieur, qui est l'absolutisation de l'État. Hein. On a eu pendant des siècles, alors d'abord, un roi suzerain qui régnait sur des grands vassaux et donc qui avait peu de pouvoir, et dont l'autorité était challengée par celle de l'Église. Et donc ensuite, on a eu le roi souverain qui s'est affirmé contre ses vassaux, mais aussi contre l'Église, et qui n'a eu de cesse que de vouloir imposer son autorité à l'Église avec le gallicanisme, ensuite l'absolutisme. Mais les Lumières dans tout ça n'ont apporté qu'un pas de plus, qu'on a appelé le despotisme éclairé. Et pour moi, l'Assemblée constituante est la face française du despotisme éclairé qu'on a retrouvé en Prusse, en Russie, en Autriche, avec Frédéric II, Joseph II, Catherine II, avec notamment un interventionnisme très fort en matière religieuse. Mais finalement, on s'est aperçu qu'au XVIIIe siècle, le problème dans la montée en puissance de l'État, c'était quoi? C'était non seulement les corps intermédiaires, hein, j'ai parlé tout à l'heure des parlements, on pourrait parler des corporations, des privilèges des communes, etc., mais aussi la personne du roi. Quand le roi est quelqu'un qui peut paraître un petit peu indécis, comme Louis XVI, ou qui est ouvertement débauché, comme Louis XV, ou enfin en tout cas une personne contestable, eh bien le meilleur moyen d'arriver à un roi incontestable, c'est d'en faire une abstraction, hein, c'est d'en faire la République, c'est d'en faire Marianne. Donc le résultat de la Révolution française, ça a été une montée en puissance d'un État qui est de plus en plus tout puissant. Voilà. Et donc la gauche a contribué à la mise en place d'un État qui aujourd'hui prétend sonder nos reins et nos cœurs, connaît tout de nous, et encore une fois, prétend nous sanctifier.
Oui, mais moi je pense tout de même que ce qu'on appelle l'Ancien Régime, il y avait tout de même une prise de conscience qu'au fond, on était allé trop loin dans l'absolutisme de l'État avec Louis XIV. Et que, je crois d'ailleurs qu'il y a toute une équipe d'historiens qui réhabilite beaucoup Louis XV, parce que Louis XV a quand même compris, d'abord avant Louis XV, il y a eu quand même cette période que l'on décrit, de la Régence et puis du cardinal Fleury, qui a quand même fait beaucoup de bien, parce qu'il a fait la paix avec l'Angleterre, enfin, il y a eu un retournement des alliances, et le règne de Louis XV donc a bien commencé, et puis on a eu cette alliance avec la Maison d'Autriche, et puis Louis XV a compris que le gouvernement des juges devenait dangereux. Voilà. Et c'est l'affaire c'est l'affaire Maupeou.
Mais il a compris à la toute fin, 3 ans avant sa mort.
Dommage, voilà, mais c'est ça qui est dommage. Mais je veux dire qu'il y avait quand même un changement, et malheureusement pour Louis XVI, il n'était entouré que de ministres qui lui ont demandé de rappeler l'ancien Parlement, alors que ne voulait pas.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et tous ces ministres, même les plus aimés, et en plus cette liste, elle lui avait été laissée par son père, François Ferdinand, le dauphin qui était mort, et qui faisait de lui donc le dauphin. Et tous ces ministres lui disent, mais si justement vous voulez faire des réformes, et c'est très bien, mais les vieux parlementaires, pourquoi est-ce qu'ils disaient ça, ces ministres? Parce qu'ils étaient tous apparentés à ces parlementaires qui intriguaient pour revenir, alors que le Parlement Maupeou, ça a très bien marché. La justice était rendue et personne ne s'est jamais plaint du Parlement Maupeou.
Voilà. Oui, oui, oui.
Enfin, mais là, c'est une erreur. C'est une erreur terrible. On le voit bien parce que le discours qu'a tenu Louis XVI, bien jeune, il avait 20 ans, on lui a certainement fait son discours, c'est un discours qui est pas, il leur fait pas un accueil très chaud. Et il justifie même son grand-père de les avoir renvoyés. C'est pour dire que, et d'ailleurs, ils lui ont fichu la paix pendant 4-5 ans. Ça n'a pas duré longtemps. Mais tout de même, on voit bien que Louis XVI les fait revenir avec beaucoup de regrets. Parce que c'était quand même des gens extrêmement fanatiques et conservateurs. Quand on voit l'édit de tolérance de Louis XVI pour les protestants, par exemple, que dit un parlementaire au représentant du roi, c'était justement leur reconnaître l'état civil, juste l'état civil. Monsieur, vous crucifiez le Christ une seconde fois. Oui. Il lui parle en théologien, là. Et c'est un parlementaire. Et à l'envoyé du roi, qui reconnaît l'état civil, que des êtres humains existent dans son pays, ces êtres humains qui ne partagent pas la foi catholique. Et il allait faire la même chose pour les juifs, d'ailleurs, je le signale, il en avait chargé nommément Malesherbes. Voilà.
Ouais. Donc, pour revenir à la question initiale, donc effectivement sur ce paradoxe que la gauche entend nous libérer et qu'elle entend que ce soit l'État qui nous libère. Donc finalement l'État nous libère de tout ce qui est supposé nous entraver. Il nous a libéré de la religion, il nous a libéré, c'est très bien, de la tyrannie des patrons. Il nous a libéré de la tyrannie du père de famille. Aujourd'hui, en cette journée de la femme, il y avait tout à l'heure une manifestation dans le jardin public en bas de chez moi, bon, avec des discours, des machins, des trucs. Il nous a libéré aujourd'hui de la nature humaine elle-même. Mais donc chaque fois cette libération de tout ce qui finalement à la fois nous enferme un peu mais nous protège. En tant que membre d'une collectivité, membre d'une nation, membre d'une religion, membre d'une famille, membre d'une corporation, etc., etc. Donc l'État nous libère de tout, mais en fait nous laisse finalement tout seul et tout nu face à sa toute puissance qui prétend ensuite intervenir dans les moindres aspects de notre vie quotidienne et même de notre existence même. Quand je vois qu'aujourd'hui on considère qu'il n'y aura pas de... je pense à la loi sur l'euthanasie, toute personne qui cherchera à dissuader quelqu'un de mettre fin à ses jours commettra un délit pénal, ça va quand même très loin.
Moi, par exemple, moi je ferai partie de cela.
Oui, sans aucune exception.
Voilà, bien sûr.
Sans aucune exception, ni des médecins, ni de toute personne religieuse, que ce soit un prêtre, un rabbin ou même un imam, ne pourra pas retenir quelqu'un de se faire euthanasier si la loi est votée telle quelle.
Voilà. Bon, aujourd'hui, on en est pour les questions de changement de sexe, avec toutes les conséquences que ça peut entraîner. On voit effectivement énormément de gens qui voudraient revenir en arrière, mais il est trop tard. Mais toute personne qui tente de faire obstacle à cette démarche entre dans le cadre d'un délit pénal. Donc effectivement, l'État nous libère de tout, encore une fois, y compris de nous-mêmes. Mais le résultat, c'est que nous sommes entièrement entre ses mains, Hein, alors évidemment, je glisse de la gauche à l'État, mais je pense que véritablement, la pente de l'histoire, c'est que l'État va de plus en plus, toujours, parce qu'il a de toute façon partie liée avec la cléricature, hein, il est un élément de la cléricature, glisse toujours, plus ou moins rapidement, vers les nouveaux dogmes de la gauche. Voilà,
oui,
on
parce
arrive
que
toujours.
Il va contre les lois naturelles et il invente au fond des lois, ce qui pour lui sont des lois naturelles.
Des lois, mais dont il fait des dogmes. Voilà. Et donc l'université passe son temps à inventer de nouveaux dogmes qui, comme je l'ai montré tout à l'heure et comme on pourra le voir dans le schéma qui conclut mon livre, évoluent systématiquement vers, après un bon matraquage médiatique et culturel, vers des lois et des sanctions pénales. Voilà. Et donc on glisse toujours, comme sur un toboggan savonneux, de plus en plus loin dans le dogmatisme imaginé et sans cesse renouvelé par la cléricature. Voilà.
Jean-François Chemin, pour essayer de, il nous reste encore un peu de temps, mais pour essayer de conclure, face à la violence de la gauche, des étiquettes d'extrême droite, de fachos, ce genre de choses, ainsi que de ces délits, on parlait à l'instant du délit d'entrave au sujet de l'euthanasie, quelle réponse pouvons-nous apporter à cette gauche et à la gauche de manière générale?
Ben, je dirais, alors, si on veut parler d'une réponse intellectuelle, je crois qu'il faut, alors, il y a plusieurs réponses possibles. Je pense déjà qu'il faudrait que les gens de droite, ou les gens qui ne sont pas de gauche, investissent plus largement les professions de la cléricature, même si c'est pas évident, hein, parce qu'il y a un barrage à l'entrée, également pour y survivre, qui fait que quelqu'un qui n'est pas de gauche aura beaucoup de mal à rentrer dans la... l'université, le nombre de médias, le monde de la culture, etc. Bon, mais je pense qu'il faut effectivement se donner les moyens d'investir ces lieux. Deuxièmement, il faut des arguments, et je pense que mon petit livre peut y contribuer, parce que la gauche use de pétitions de principe, de syllogismes, de raisonnements circulaires, etc., qu'il est quand même aisé, à mon avis, si on y est préparé, de démonter. D'ailleurs, je vous l'avoue, un peu vexé. J'ai envoyé ce livre à beaucoup, beaucoup de monde dans le monde des médias, et notamment des médias qui sont pas de droite, alors, qui sont pas de gauche, pardon. J'ai eu, je m'aperçois, hein, un petit peu que mes idées, mon discours est passé, mais j'entends quand même de sempiternelles discussions sur pourquoi la gauche elle est comme ci, la gauche elle est comme ça. Mais lisez mon livre et le sujet restera clos. Voilà, vous aurez compris que qu'ils sont comme ça. Voilà. Bon, donc il faut investir la cléricature et se former à répondre à la gauche. Maintenant, pour ce qui est des incessantes violences de gauche, et je pense qu'elles sont réelles. Si j'ai 2 minutes, je vous raconte une anecdote. J'enseigne dans un séminaire et un séminariste qui est stagiaire dans une paroisse du fin fond de la province profonde m'a expliqué qu'ils avaient organisé avec sa paroisse une conférence d'une dame qui venait parler des cycles féminins. Hein, voilà. Bon. Eh bien, les antifas sont intervenus. Les antifas sont intervenus, ils ont tagué l'Église pour dire que le corps de la femme ne sert pas à la procréation, et ils ont accusé la conférencière d'être l'épouse d'un membre de Civitas. Enfin bon, ils sont sur tous les fronts, et voilà. Bon, maintenant, ce n'est pas par la violence qu'on arrivera à les arrêter, parce que d'abord, c'est pas un moyen efficace de se mettre à leur niveau. Je pense, moi, que enfin, je donne 2 modèles pour conclure mon livre, et qui sont des modèles qui ont fait leur preuve dans l'histoire. Tout d'abord, le modèle du héros. Hein, je pense effectivement, alors évidemment, tout le monde n'a pas vocation à être le colonel Beltrame, mais je définirais le héros comme celui qui fait son boulot en conscience, dans son coin, sans faire de grands discours, et voilà, sans chercher à se prendre en modèle. Hein. Un prof de quartier difficile qui tient sa classe jour après jour et qui fait son boulot de transmission à ses élèves, c'est un héros. Voilà, donc que chacun soit à son poste et fasse de son mieux. Et puis deuxièmement, ben, y a le saint. Notre société a été largement transformé par des personnalités, des saints, et donc ce sont des gens qui effectivement dans la foi, dans une lutte permanente contre leurs péchés, ont essayé de se comporter à l'idéal chrétien. Les deux convergent pour moi sur la personne du chevalier, voilà, qui est à la convergence du héros et du saint. Donc soyons à notre niveau des chevaliers. Et puis un autre modèle également qui me semble très efficace dans le modelage de notre civilisation, c'est le moine, c'est le monastère. Et je renvoie aux excellents livres de Rod Dreher, d'une part le Paris bénédictin et d'autre part Résister aux mensonges, et qui montre alors dans le Paris bénédictin comment l'ordre clunisien, partant d'un petit monastère fondé au fin fond, aujourd'hui on dirait de la Bourgogne, mais à l'époque c'était l'Aquitaine, a réussi en quelques décennies à fonder une nouvelle civilisation. Hein. Et puis dans Résister aux mensonges, il montre comment des groupes de gens, des familles, mais de manière totalement sous les radars, ont réussi en se réunissant pour apprendre, pour transmettre, pour créer de la solidarité, ont réussi à faire s'effondrer le communisme. Donc je pense, moi, que notre vocation, à nous, gens de droite, n'est absolument pas d'aller faire le coup de poing, de résister à la gauche par ses propres moyens, elle est de faire ce que nous avons à faire, discrètement, humblement, patiemment, solidairement, hein, et que nous ferons avancer notre cause sans forcément attirer l'attention sur nous, mais le jour où tout ça doit s'effondrer, ben ça s'effondrera. Voilà. Mais n'utilisons pas les moyens de la gauche. Fondamentalement, pour moi, c'est contre-productif.
Oui, de toute façon, ils s'entre-dévorent. Et pour ce qui est de la violence et de leur destruction, bah, ils s'en chargent eux-mêmes.
Laissons-les nous insulter, laissons-les être violents, laissons-les faire des procès, et nous continuons à faire ce qu'on a à faire.
Bien, merci Jean-François Chemin et Pervio, au mois prochain.
Oui, alors donc, c'est Notre ami la gauche, deux siècles de cléricature, aux éditions Via Romana, de Jean-François Chemin, que je remercie encore pour sa présence et pour avoir écrit ce livre, d'avoir eu le courage de l'écrire.
Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Michel Viau, assisté d'Armand, diffusé en direct sur Radio Courtoisie dimanche 8 mars 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.